été mis à la disposition des participants fera que je suis je serai extrêmement bref, vous laissez très rapidement. Deux ou trois observations ou éléments d'introduction cependant, si vous le permettez. Il n'est pas d'usage dans la présentation de conférenciers d'insister sur des éléments biographiques trop personnalisés. Cependant, dans le cas du professeur...
La technique est moins, oui.
Cependant, dans le cas du professeur Harkoun, comme je le disais, je crois que ces éléments biographiques sont assez importants pour comprendre l'itinéraire d'un homme. On est dans un petit village de Grande Kabylie, dans un milieu de culture orale, de culture d'un islam populaire, et ce n'est que vers 8 ans ou 9 ans, si je suis bien au courant, qu'il a appris l'arabe, donc comme une langue extérieure en quelque sorte, et le français. À partir de là, l'itinéraire via l'école de la République vers des formations supérieures et puis tout un travail de recherche qui est jalonné de toute une série de productions intellectuelles unanimement reconnues puisqu'il est appelé dans différentes universités et centres de recherche à intervenir régulièrement. Ce qui est intéressant dans sa démarche, je crois, ce qui est fondamental, c'est le fait que cette connaissance multiculturelle, ce vécu en termes de plusieurs cultures où il est également à l'aise, lui a permis de mettre à nu les contradictions, les limites, les aspects qui paraissent trop évidents, de constructions historiques qui finalement ont leurs faiblesses et leurs lacunes. Et cet esprit critique, il l'a développé à propos de l'islam, mais aussi à propos d'une pensée occidentale qui parfois considère comme des évidences ce qui n'est que le fruit de l'histoire et a tendance à considérer aussi qu'est universel ce qui est européen. À partir de là, et travaillant au croisement de plusieurs disciplines, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, il a situé sa démarche à égale distance, pour ce qui est des sociétés musulmanes, de ce qui est l'orientalisme classique, avec ses limites, mais aussi l'islamologie classique. Donc c'est plutôt une démarche, je crois, anthropologique et historique qu'il a adoptée. Je n'évoquerai pas ces travaux parce que je ne les connais pas tous, mais ceux que je connais me permettent de dire que sur deux ou trois points, ce qu'il a apporté est très important. Il a développé l'idée d'un humanisme arabe qui va largement au-delà de ce que nous pensions en Occident, à savoir que les Arabes avaient joué un rôle important dans la transmission de la pensée grecque. Il a mis en évidence, et non seulement dans le passé, tout l'aspect créatif, tous les dialogues, tous les conflits qui avaient traversé cette pensée arabe à ses débuts, cette civilisation arabe, et des conflits entre la religion, la raison, critique, toute une série d'éléments qui, en Europe occidentale, ont été vécus à travers la réforme, puis à travers les Lumières. Donc c'est toute une réflexion inscrite dans l'histoire qu'il a développée, et je crois avec un projet qui est toujours inachevé, mais qui est largement constitué d'une critique, d'un projet, d'une critique de la raison islamique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je crois que c'est un point important de son itinéraire. Alors, en quoi il était important de l'inviter ici, à Bruxelles, pour parler d'un sujet comme l'islam? Au-delà de toutes les raisons intrinsèques, il y a deux raisons d'opportunité politique pour nous, fonctionnaires européens et européens, de traiter ou d'aborder cette question et d'écouter quelqu'un qui a beaucoup à dire là-dessus. Un premier élément est d'ordre extérieur, c'est que l'Union européenne met en œuvre vis-à-vis de la Méditerranée, où les pays de tradition arabo-musulmane sont largement majoritaires, met en œuvre une politique dite de construction régionale avec le projet euro-méditerranéen que la conférence de Barcelone, à la fin de novembre dernier, a organisé. Or, dans ce cadre-là, et sortant des coopérations financières et techniques habituelles, on a essayé de mettre en place un volet de coopération sociale et culturelle. Et au sein de ce dialogue culturel, l'élément dialogue religieux, je n'aime pas ce terme, dialogue entre religions, je n'aime pas ce terme, mais enfin, il est présent et il signifie qu'il y a une volonté de clarifier un certain nombre d'incompréhensions de part et d'autre de la Méditerranée sur cette question. Le second élément important, c'est que l'Europe est finalement une terre d'islam, maintenant qu'on le veuille ou non. On savait, parce qu'il y avait quelques musulmans turcophones en Thrace, on le savait malheureusement à travers les événements de l'ex-Yougoslavie avec la Bosnie, mais ce qu'on ignore ou ce qu'on ne veut pas prendre en considération, c'est qu'à travers les immigrations des 10 ou 15, 20, 30 dernières années, eh bien, il y a entre 10 et 20 millions de musulmans qui se trouvent en Europe et qui, malgré certaines illusions, y resteront. Illusions quant au retour dans le pays d'origine, y resteront, ou leurs enfants y resteront. Donc cet islam est présent, il est vécu de manière très très différente, en raison de la diversité des origines, des affiliations doctrinales, mais il est présent. Et de cet islam-là, peut-être pourra naître une revivification de la pensée islamique. c'est ma thèse, je ne sais pas si le professeur Harkoun y abondera dans ce sens, mais je crois que sur toutes ces questions, ce qu'il a à nous dire est important, parce que c'est de la réflexion de chercheurs, d'écrivains, d'universitaires, sur des questions extrêmement sensibles, que les politiques peuvent finalement s'appuyer pour faire moins d'erreurs qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. J'ai peut-être un petit peu long, mais je suis heureux de vous donner la parole.
Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier M. Germain et M. Bistolfi qui ont rendu possible cette rencontre et de vous remercier aussi tous d'avoir répondu nombreux, et j'en suis très heureux, pour partager une réflexion sur un sujet effectivement d'une brûlante actualité, vous le savez tous. Et bien qu'il soit de brûlante actualité, je voudrais dire d'emblée que nous sommes peu préparés culturellement, intellectuellement, historiquement, et bien entendu, il en résulte politiquement, pour faire face aux problèmes, aux défis d'une histoire qui doit être, qui devrait être, nous le souhaitons, celle du 21e siècle. Et si je me permets d'employer l'expression islam européen pour un islam européen, c'est précisément pour essayer de poser des jalons de réflexion, de travail pour les 10 à 15 prochaines années. Puisque j'ai l'honneur de parler dans cette maison, je suscite tant d'espérance, pas seulement parmi les peuples européens, mais aussi, et les Européens ne le savent pas assez, parmi des peuples dont l'histoire est liée à l'Europe, mais que l'Europe a laissé sur la route, et s'en est occupée au XIXe siècle de la façon que nous savons. Mais depuis les indépendances reconquises, nous savons que une distance s'est creusée entre les peuples arabo-turco-irano-musulmans. Il faut les nommer ainsi pour bien voir d'emblée une géopolitique accompagnée d'une géo-histoire. Car si nous nous contentons seulement, comme hélas nous le faisons, de réfléchir à une géopolitique de façon stratégique pour sauvegarder des relations de pouvoir ou de profit, sans faire intervenir la géohistoire de l'espace méditerranéen, alors on ne pourra pas véritablement passer du stade historique d'une histoire dominée par les volontés de puissance au détriment de la quête de sens qui caractérise à mon sens justement cet espace méditerranéen dont nous allons essayer de parler si nous ne faisons pas les efforts nécessaires. D'abord pour faire une sorte de bilan historique des ruptures qui ont affecté les cultures et les civilisations autour de la Méditerranée. Un bilan historique fait par des historiens qui porteraient un regard neuf sur l'ensemble des cultures et des civilisations. Si nous ne faisons pas ce travail, nous ne pourrons pas passer d'une histoire dominée par les volontés de puissance à une histoire qui, dans ma perspective, c'est ce que je souhaite depuis longtemps, ce pourquoi je milite au sein de l'espace européen, en tant que citoyen de cet espace. Une histoire solidaire des peuples. Une histoire solidaire des peuples. Et quand je dis histoire solidaire des peuples, c'est pour la différencier d'une histoire gérée essentiellement par des États, souvent au détriment des peuples. Ceci, on pourrait le montrer historiquement, mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que ça demanderait beaucoup de temps. Mais vous voyez, je jette ainsi un certain nombre d'éléments pour appeler votre réflexion et pour essayer de tracer un programme d'action qui reposerait sur une connaissance radicalement révisée dans un sens critique des enjeux d'une histoire lointaine qui pèse encore sur nous, une histoire dominée, encore une fois, par les volontés de puissance d'un côté, en relation, toujours et sans interruption, dans le pourtour de la Méditerranée, la quête de sens. La quête de sens, de la signification de l'existence humaine, assigner à l'existence humaine des valeurs qui motivent son action et ses entreprises dans cette vie-ci, comme on dirait en termes religieux, cette coexistence permanente d'une compétition autour de pouvoirs politiques et de pouvoirs économiques autour de la Méditerranée, s'est exacerbé en particulier lors de l'émergence de l'islam dans la scène méditerranéenne entre 632 et 732. Vous voyez, c'est un siècle. On connaît tous la date de 732. C'est une bataille qui n'a jamais eu lieu, les historiens contestent, mais que l'on a inventée précisément pour justifier la première grande rupture historique qui va affecter la Méditerranée, rupture sur laquelle je voudrais dire un mot, en partant, puisque nous sommes en Belgique, d'un historien belge qui s'appelle Henri Pirenne, qui dans les années 30 a publié un ouvrage qui a longtemps retenu l'attention des historiens, surtout dans les années 30, nous sommes dans la période coloniale, à l'apogée même de la période coloniale. Et Henri Pirenne a connu un grand succès pour avoir développé cette idée qui fait réfléchir historiquement. L'ouvrage s'intitule « Mahomet et Charlemagne ». Et il développe l'idée que, jusqu'à l'émergence de l'islam dans la Méditerranée, cette Méditerranée était le lieu de paix et de circulation d'une culture véhiculée essentiellement par Rome, dans ce que les Romains appelaient Mare Nostrum, notre mer, comme on dirait notre maison. Et la Pax Romana, selon la présentation faite par cet historien, a régné tout autour de la Méditerranée, effectivement. Vous pouvez aller au Maghreb, depuis Volubilis, qui est une ancienne ville romaine, dont vous pouvez visiter les ruines, aujourd'hui, au Maroc. Vous traversez l'ensemble de l'Afrique du Nord jusqu'à la Libye et vous continuez jusqu'à la Syrie, vous rencontrez Rome. L'évidence archéologique est encore là. C'est vrai. Et le christianisme est venu ajouter son empreinte autour de la Méditerranée et lorsque l'islam émerge, intervient, lui aussi, comme une force, bien sûr politique et économique, puisqu'il s'est constitué assez vite en empire, et cette force politique et économique s'est accompagnée, elle aussi, comme au temps des Romains, c'est cela qui n'est pas suffisamment souligné par les historiens, surtout au temps de Pirenne, elle a été accompagnée aussi par une libre circulation des idées et des cultures, puisque les cultures et les idées ont circulé non seulement dans l'espace de l'Empire islamique, mais ils ont également circulé en Europe, l'Italie du Sud, la France du Sud, l'Espagne, et l'ensemble de la Méditerranée était également irrigué par une pensée qui continuait à bien des égards ce que représentait la pensée méditerranéenne avec son axe double, qui est l'axe monothéiste des trois religions monothéistes, puisque l'islam reprend la totalité de la vision monothéiste et prophétique telle qu'elle est développée dans la Bible, continuée avec le christianisme, il la reprend entièrement. Il s'installe dans ce que les théologiens appellent l'histoire du salut, du plan de Dieu pour le salut des hommes. C'est sa théologie. Il reprend tout cela. Et en même temps, il reprend l'héritage grec, qui est également méditerranéen. Et cet ensemble va circuler et va provoquer des échanges, non seulement entre les trois religions, les trois communautés, mais également des échanges avec des cultures anciennes, c'est-à-dire avant le christianisme, ou contemporaines de la culture hébraïque, biblique, comme les cultures syriaques, les cultures araméennes, les cultures mésopotamiennes, les cultures iraniennes, qui étaient encore vivantes. Donc nous avons là une circulation de la culture qu'il ne faut pas oublier en insistant, comme on l'a fait, sur la rupture politique, évidemment. Et, il faut le dire, la rupture théologique que l'islam introduit dans cet espace méditerranéen, travaillé, encore une fois, par de longues traditions et de riches traditions culturelles et intellectuelles. Donc vous voyez ici déjà un jalon que je voudrais vous donner pour notre réflexion aujourd'hui. Une réflexion à investir pour ce que nous devons faire dans l'Union européenne, à partir de l'Union européenne aujourd'hui, en pensant également les ruptures intervenues du côté européen, les ruptures historiques intervenues du côté européen, ruptures qui font que les Européens d'aujourd'hui ont beaucoup de mal, et c'est peu dire, à accueillir l'idée d'une pensée islamique, d'une culture islamique qui ferait partie et qui fait partie de l'ensemble européen. Ça, c'est une idée qui ne rentre pas. Parce que, bien sûr, nous percevons l'islam essentiellement à travers ses manifestations et ses expressions qui sont plus liées à l'idéologie nationaliste de combat pour les libérations pendant les années 50 et 60, idéologie nationaliste relayée depuis 1979 en particulier, émergence de la révolution dite islamique avec Khomeini, relayée par l'idéologie également de combat contre l'Occident, mais cette fois-ci qualifié islamique et non pas arabe ou socialiste comme on l'a fait dans les décennies précédentes. Mais les deux idéologies, autrement dit depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont des idéologies, je les appelle des idéologies de combat. Parce que historiquement, les sociétés du sud et de l'est de la Méditerranée ont été mises dans une condition historique de devoir conduire un combat de libération. Et ici, vous voyez, il faut remonter. Vous voyez comment l'histoire est nécessaire. Il faut remonter non seulement au XIXe siècle, mais remonter de nouveau vers le passé pour voir comment les compétitions, les rivalités entre l'Europe chrétienne, qui a été chrétienne jusqu'aux révolutions anglaises et françaises, avant de devenir l'Europe laïque actuelle. Comment les rivalités entre cette Europe chrétienne et ensuite l'Europe capitaliste laïque après le XVIIIe siècle, avec les sociétés et les peuples arabo-turco-irano-musulmans, comment cette rivalité-là n'a pratiquement pas cessé depuis l'émergence de l'islam jusqu'à nos jours. Et le point important qu'il faudra également retenir pour tout à l'heure, lorsque nous parlerons d'un programme d'action, c'est que les quelques fragments d'histoire que j'essaye de rappeler devant vous, et qui sont si nécessaires pour donner un autre éclairage au destin historique des peuples dans l'espace méditerranéen, ces fragments d'histoire-là, mesdames et messieurs, ne sont pas enseignés à l'école comme ils devraient l'être. Ni dans les écoles européennes, où nous avons pourtant beaucoup de ressources en historiens, en chercheurs, en professeurs, en bibliothèques, etc. Ce n'est pas ce qui manque. Ni en Europe, et encore moins, bien sûr, hélas, mais pour des raisons toujours historiques, du côté des peuples arabos, etc. Je ne vais pas répéter tout le temps la série. Maintenant, vous voyez pourquoi il faut référer absolument à cet ensemble-là. Ça, c'est un point extrêmement important. Imaginez que lorsqu'on enseigne l'histoire de la Méditerranée à partir de 1453, prise de Constantinople par les Turcs, et à partir de 1492, grande rupture, autre grande rupture au sein de la Méditerranée, expulsion des Juifs et des Arabes d'Espagne, expulsion par la force, pour mettre fin, éradiquer, hélas, un mot qui revient, vous voyez, le surgissement d'un vocabulaire, le ressurgissement d'un vocabulaire. Et ensuite, la rivalité constante entre une Europe en pleine émergence historique à partir du XVIe siècle et un empire ottoman qui, au départ, avait de quoi faire face militairement à cette Europe en ce temps-là. Et la compétition s'est jouée pendant longtemps sans que la victoire fût assurée pour l'Europe puisqu'elle était encore dans son ascension. Mais à partir du XVIIIe siècle, ça balance complètement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté européen, et la fin de l'Empire ottoman a lieu en 1924, abolition du sultanat par Atatürk et émergence de la Turquie actuelle. Cette histoire-là, depuis le XVIe siècle, dont vous voyez l'imbrication entre des protagonistes, des acteurs de l'histoire dans l'ensemble de la Méditerranée, où normalement l'historien devrait donner la parole à part entière à tous les protagonistes, en reconstituant les univers mentaux de part et d'autre, et en particulier en reconstituant par la méthode historique qui s'intéresse aujourd'hui à l'histoire psychologique des mentalités, pour montrer comment les références islamiques au djihad, la fameuse guerre sainte, avaient leur correspondant théologique exact, pour structurer les mentalités du côté de ce que les Européens ont nommé la croisade. Et à ce moment-là, nous aurions une vue historique, non seulement sur des combats politiques que nous racontons à la rigueur dans nos ouvrages d'histoire, mais sur quelque chose de beaucoup plus essentiel, les enjeux de sens qui étaient inclus dans les soi-disant théologies, aussi bien islamiques que chrétiennes, pendant toutes ces luttes d'exclusion réciproque, comment ces théologies-là ont abandonné leur mission qui était de regarder le sens pour légitimer des entreprises humaines qui avaient plus à voir avec des volontés de puissance. Et ainsi, nous ne regarderions plus les croisades qui sont un thème jusqu'à nos jours, extrêmement productif du point de vue idéologique jusqu'à nos jours. Comment les Arabes utilisent aujourd'hui les références aux croisades pour dire que l'Occident a toujours été colonialiste, dominateur, impérialiste, ça a commencé depuis le XIe siècle, c'est le thème dominant. Et les Européens de l'autre côté, l'islam, c'est le djihad, c'est la violence, le fanatisme, l'expansion de la religion par le sabre, etc. Voilà comment les perceptions continuent de fonctionner entre les uns et les autres, faute d'un enseignement déconstructif des univers mentaux en présence, pour montrer que, historiquement, des deux côtés, il n'y a pas de privilège. Il y a eu mépris du sens, que par ailleurs, je le répète, les théologies qui prétendaient lire les Écritures saintes et les expliquer aux fidèles, de part et d'autre, trahissaient leur mission. Et ça, c'est l'historien qui le montre, ce n'est pas le théologien. Le théologien ne vous dirait jamais ce que je suis en train de vous dire. Jusqu'à nos jours, allez suivre des cours de théologie, là où il y a des facultés de théologie, aussi bien en Europe d'aujourd'hui que dans le monde islamique d'aujourd'hui, vous n'entendrez pas ces explications-là. Alors si on ne les entend pas à l'école, où allons-nous nous former pour faire advenir une citoyenneté nouvelle dans cet espace européen qui a, encore une fois, fait des parcours historiques suffisants pour rendre possible un saut qualitatif décisif vers cette nouvelle citoyenneté dont nous avons besoin. Je parlais tout à l'heure avec un de vos collègues qui s'occupe du département de la citoyenneté. J'ai appris beaucoup de choses qui confortent ce militantisme que j'apporte pour qu'à partir de l'Union européenne telle qu'elle se fait, nous puissions intégrer véritablement dans une vue dynamique de la citoyenneté, intégrer des dimensions de l'histoire qui, à mon sens, sont extrêmement motivantes pour que nous fassions les uns et les autres les critiques nécessaires et auxquelles nous n'avons pas procédé jusqu'à présent. J'ai signalé les ruptures à l'intérieur de l'Europe. J'y reviens pour les nommer. Première rupture au XVIe siècle, Renaissance et réforme. Cette rupture entraîne une présentation désavantageuse de toute la période médiévale. Je n'ai pas le temps de développer pour réfléchir sur le cogito cartésien dans cette perspective. Pour réfléchir sur l'intervention de Spinoza dans cette perspective. Il y a là des choses importantes à reprendre pour montrer comment il intervient des cassures à l'intérieur de la culture et de l'activité intellectuelle en Europe qui va de plus en plus être orientée vers ce qui va devenir notre religion actuelle. Les laïcs n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis toujours pour réfléchir. La religion laïque. Je le dis pour réfléchir, je défends la laïcité, je le dis, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Parce que je sais que, et je l'ai éprouvé à mes dépens plusieurs fois, lorsque Mohammed se met à parler de la laïcité, c'est toujours dangereux, c'est toujours pour l'attaquer. Eh bien non, j'en parle avec une responsabilité intellectuelle et historique. Justement, la laïcité est une rupture, cette fois-ci intellectuelle capitale, intervenue en Europe et nulle part ailleurs dans l'histoire des cultures dans le monde. Ça, je le dis chez les musulmans, dans les pays arabes. Il faut qu'ils entendent ça. Au lieu de faire la ritournelle que l'islam a été grand, etc., et qu'il avait inventé toutes sortes de choses, et qu'il a enseigné l'homme. Non, tout ça, c'est du bavardage. Il faut mesurer l'importance de la rupture laïque en tant que posture de la raison devant justement la question du sens et pas seulement pour réaliser des compromis juridiques entre deux institutions qui continuent de se disputer le contrôle de l'espace public et de l'espace privé. Car les séparations de l'Église et de l'État qui ont été réalisées en Europe sont des compromis essentiellement juridique et extrêmement variable selon les pays européens. Vous savez ce qui se passe ici, ce qui se passe en Hollande, ce qui se passe en Angleterre. Chaque cas européen est une réponse historique particulière à la question de la séparation. Voilà pourquoi il y a là des problèmes à reprendre sur lesquels il faut réfléchir à nouveau. Ça n'est pas résolu et ça n'est pas gagné. On a gagné une certaine paix sociale, paix politique, mais nous l'avons payée. En Europe, je parle de l'Europe. Nous l'avons payée d'un désintérêt à l'égard de ce qui a constitué au cours de l'histoire des sociétés européennes elles-mêmes une référence historique religieuse importante, présente, et qui a été, à partir des 17e, 18e siècles, reléguée dans la conscience privée, dans la vie privée, à tel point que, à l'école, aujourd'hui, vous pouvez prendre tous les pays européens, nous n'enseignons pas comme on le devrait, une histoire comparée des religions. Pas la religion en tant que système de croyance dogmatiquement affirmé selon les orthodoxies de chaque communauté. Non, c'est ça le progrès décisif de la laïcité. Ça, ça relève du privé. Mais dans un espace public, je parle devant vous, je n'ai pas le droit de vous parler, d'ailleurs vous seriez parti, de mes convictions, si j'en ai, musulmanes ou autres. Mon devoir est d'apporter des outils d'analyse que nous pouvons utiliser tous ensemble sur ce que représente le phénomène religieux comme dimension permanente et universelle dans toutes les cultures humaines produites par des hommes, et dans tous les types de sociétés, depuis les plus archaïques jusqu'à nos sociétés actuelles. Comment éliminer une telle dimension de l'enquête scientifique et d'un effort d'intelligibilité? Eh bien, c'est ce qui a été fait. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que je sais que des efforts sont faits à partir de la Commission européenne pour essayer d'animer ce qu'on appelle des dialogues islamo-chrétien, judéo-chrétien, islamo-judéo-chrétien. Nous espérons qu'il y en aura davantage qu'il y en a eu jusqu'ici. Mais le dialogue ainsi conduit, et j'en ai une expérience depuis longtemps, n'est absolument pas productif. Parce qu'il est conduit avec des outils intellectuels qui n'a jamais fait l'analyse des ruptures intellectuelles dont je viens de parler, et qui n'a jamais insisté sur les conséquences historiques et culturelles et intellectuelles du fait que l'Europe a fait cette rupture en générant un espace vide pour la connaissance du religieux et en générant un modèle de perception du politique et du religieux dont je me permets de dire, je parle très vite, je m'en excuse, je n'ai pas le temps de raffiner, qu'il est faux. Le modèle est faux. En ce sens qu'il ignore totalement la problématique anthropologique du religieux et du politique. Je n'ai pas le temps de développer. Si donc nous savons que cette rupture a eu lieu en Europe, mais qu'elle ne s'est jamais produite du côté islamique, sauf à un moment historique privilégié et fugitif, et aussi historiquement très lointain de nous, qui est très exactement le 9e et 10e siècle. En Iran, en Irak et en Andalousie. Il y a eu des expériences intellectuelle qui allait dans le sens d'une clarification des instances et dans le sens de ce que M. Bistolfi a évoqué, d'un humanisme au sens où la Renaissance va imposer ce concept. Mais ce fut éphémère. pour des raisons historiques, encore une fois, qu'il faut enseigner. C'est très intéressant de comparer l'expérience historique, justement, du côté islamique et du côté chrétien européen. Le fait que, d'un côté, l'expérience a eu lieu et a conduit au modèle politique actuel tel qu'il fonctionne en Europe, et qui empêche l'Europe de laisser venir à elle des problèmes intellectuellement féconds, qui est, je le répète, le problème de la reprise critique du politique et du religieux dans un cadre et une pensée anthropologique et non pas théologique. Et vous voyez comment on se contente de rejeter d'un revers de main tout le discours islamique contemporain en disant c'est complètement farfelu, c'est attardé, ça n'a rien à voir, ils n'ont rien compris, bon, nous sommes tolérants et démocratiques, laissons-les parler, donnons-leur des mosquées, donnons-leur des lieux pour avoir une viande halal, etc., parce que nous sommes des gens bien. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Je caricature un peu pour essayer de... C'est comme ça que ça se passe, la politique du religieux, pour dire qu'il n'y a pas une politique du religieux. C'est pas avec ça que nous allons ouvrir un espace de la citoyenneté européenne incluant tous les membres de cet espace européen, porteurs de références culturelles extrêmement variées et diverses. C'est une richesse. Et au lieu de parler, comme nous le faisons en France et sans doute ici, d'intégration des étrangers, intégration ou assimilation, ce sont deux mots que moi, d'origine algérienne et français, aujourd'hui, et depuis longtemps, j'entends depuis... Ça a commencé en 1930. Bon, je ne les entendais pas en 1930, mais ça remonte très loin. Alors qu'il faudrait aujourd'hui parler dans l'espace européen démocratique, ouvert, humaniste, d'intercréativité. Chaque citoyen bénéficiant des libertés chèrement conquises et protégées dans l'espace européen peut être un créateur, contribuer à la création de nouvelles attitudes de l'esprit, de nouvelles conceptions et pratiques artistiques, de nouvelles ouvertures sur le plan du politique et de l'aménagement justement d'un espace de la citoyenneté. On peut apporter des choses si nous acceptons d'interagir dans l'espace de la citoyenneté. Interagir! Ce qui veut dire une écoute mutuelle et ce qui veut dire un engagement commun vers une tâche commune. Malheureusement, le temps a déjà filé. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais, puisque nous parlons encore une fois, dans un lieu où il y a des femmes et des hommes qui sont à la fois des femmes et des hommes qui ont le pouvoir de décision, du moins nous l'espérons, qui ont le pouvoir d'échanger. Oui, je... oui, mais je sais, j'ai entendu, je sais, mais l'espérance historique que nous portons en pensant à cet espace européen et à cette construction européenne, cette espérance-là doit nous faire voir le travail qui s'accomplit ici dans une perspective dynamique de devenir. On peut être évidemment chargé de tous les poids de ce que, pardonnez-moi, c'est le mot que j'entends toujours, la bureaucratie peut avoir, mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir une dynamique qui se nourrit d'un projet, et ce projet consisterait, vous voyez, j'emploie le conditionnel parce que ça n'est pas gagné, à prendre en charge, à partir de l'Union européenne, ce que j'ai appelé le destin historique de l'espace méditerranéen. Notez que je parle d'espace. Pour transcender les définitions étatique, donc politique, nationaliste de cet espace. Nous devons avoir conscience de la difficulté que représentent aujourd'hui ces définitions, encore une fois, j'insiste, étatiques, politiques, nationalistes, ce qui veut dire que ces définitions ne laissent pas entrer nécessairement les considérations et les informations que les historiens ont déjà accumulées sur l'histoire de la culture et des cultures et des pensées qui ont fleuri dans la Méditerranée. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de ce refus du politique d'inclure dans sa vision politique de l'espace méditerranéen ce que l'histoire nous enseigne, ce que l'anthropologie nous enseigne sur cet espace, ce que les littératures au pluriel des peuples vivants dans cet espace peuvent nous enseigner si nous leur donnons la possibilité de s'exprimer dans nos écoles en particulier en enseignant des littératures comparées et non pas des littératures nationales fermées sur elles-mêmes comme on le fait encore. Je connais, je peux vous parler des départements d'histoire comparée, d'histoire de littérature comparée dans les universités européennes. J'y ai jeté un coup d'œil, ça m'intéresse, pour vous dire que au mieux, on compare les littératures allemandes, anglaises et françaises. Historiographie nationale et l'appropriation nationale-nationaliste d'une histoire qui doit être ouverte. Et à ce propos, il faut que je vous le dise. Imaginez que M. Marcellon, qui est un très grand serviteur de l'État, admiré et respecté par tous, hein, c'est indiscutable. Mais à propos de ce baptême de Clovis, les journalistes lui ont demandé « Comment se fait-il que vous avez invité des protestants, des catholiques et des juifs, et pas les musulmans, qui tout de même existent dans l'espace de la citoyenneté française » Qu'a-t-il répondu ? L'islam n'existait pas encore au temps de Clovis. Mais oui. Mais oui. Voilà comment on pense un espace de la citoyenneté. N'est-ce pas scandaleux ? Dans un espace de la citoyenneté qui, précisément en France, est présenté comme la conquête suprême de la pensée française, aussi bien juridique que de philosophie politique. Voilà un exemple, vous le voyez, qui appelle notre attention sur la façon dont nous gérons nos histoires et nos historiographies, et comment un long chemin doit être parcouru pour que justement, les peuples de la Méditerranée, les cultures de la Méditerranée, aient leur place réelle, telle que l'histoire l'exige, dans l'espace européen que nous voudrions construire. Il y a donc une intervention précise, et je ne sais pas quelles sont vos possibilités d'intervention ici à la Commission, ne serait-ce que pour agiter le problème, pour poser le problème auprès des ministres nationaux de l'éducation nationale, pour qu'une réflexion en profondeur, et ça c'est pratique, soit accordée désormais à la confection des programmes d'histoire en premier lieu. Comment enseigner l'histoire des peuples au pluriel de la Méditerranée, par-delà toutes les ruptures qui existent et qui ont séparé ces peuples-là pour des raisons théologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, etc., jusqu'à présent. Et cette question-là de l'élargissement des programmes, elle a premièrement un intérêt purement scientifique. Ça n'est pas une demande comme ça pour construire une politique. Ça vient a fortiori. Ce que je formule là est une demande d'abord scientifique, selon les règles actuelles du métier d'historien. Et si les historiens que nous formons à l'université sont formés de cette manière-là, et nous en sommes loin, parce qu'à l'université, dans les départements d'histoire, vous n'avez pas d'enseignement de l'histoire ottomane, vous n'avez pas d'enseignement de l'histoire du côté musulman de la Méditerranée, vous n'avez pas d'enseignement sur la civilisation iranienne, prise avant l'islam, qui est extrêmement intéressante. Tout cela est absent. Et tout cela, on le rejette dans le département d'orientalisme, des études orientales, lorsque ce département existe. Il n'en existe pas partout dans les universités européennes. Voilà une chose qui doit absolument cesser. Si je considère l'histoire de la philosophie, je dirais la même chose. Vous savez comment la philosophie est enseignée encore dans les départements de philosophie. D'Aristote et Platon, on fait un grand saut par-dessus le Moyen-Âge, dont je vous ai dit qu'il a été mis de côté parce que c'est de la théologie, c'est pour les attarder, dans des croyances surannées. Et puis on saute à Descartes. Et on entame la modernité. Ce qu'on appelle la modernité. Vous voyez ? Et par-dessus, 10 siècles d'histoire de la pensée ininterrompue. Parce qu'il y a eu, avant les Arabes, dans tout le Proche-Orient, à l'intérieur de l'Église chrétienne d'Orient, ce qu'on appelle la philosophie syriaque. Les chrétiens qui écrivaient en langue syriaque, langue sémitique de civilisation de tout le Proche-Orient, ils ont commenté Aristote en syriaque, traduit Aristote et Platon en syriaque, avant que l'arabe n'arrive. Tout ça, on le met de côté, sans intérêt. Est-ce possible du point de vue philosophique? Est-ce possible du point de vue scientifique? Et est-ce possible du point de vue juridique, d'une définition juridique démocratique de la citoyenneté européenne? Vous voyez, c'est les trois choses que je retiens. Ce n'est pas une charité que je demande. C'est de la philosophie, c'est de l'histoire, et c'est du droit. Je m'arrête là. Et je peux continuer avec d'autres aspects de nos enseignements. Par exemple, la façon dont nous enseignons, je vous l'ai dit, les littératures. Il y a une absence complète des littératures dites orientales. Ou bien la façon dont nous enseignons encore l'anthropologie. Parce que dans l'anthropologie aujourd'hui, nous devons faire une distinction entre trois niveaux d'enquête culturelle sur les cultures et les civilisations. Il y a un niveau ethnographique, il y a un niveau ethnologique et il y a un niveau anthropologique. Et aujourd'hui, beaucoup de nos collègues nous servent une marchandise ethnographique avec l'étiquette anthropologie. Je n'ai pas le temps, évidemment, de différencier tout ça. Mais ça intéresse absolument la construction de l'espace européen, construction culturelle et intellectuelle de l'espace européen. C'est cela le passage qualitatif d'une conception d'une Europe liée à une définition nationale, nationaliste, étatique de son espace à soi, à un espace ouvert, où les États-nations, évidemment, ne disparaîtront pas, mais où il y aura de nouvelles possibilités offertes à tous les citoyens acteurs d'une histoire commune dans cet espace européen, d'être des citoyens interactifs et intercréateurs. Et non pas des citoyens protégés, avec plus ou moins de condescendance, à qui on octroie des droits de vote pour les municipales ou pour des petites choses qui ne tirent pas à conséquence. Et même cela, vous savez quelles difficultés ça soulève. Vous le voyez, évidemment, vous allez me dire que je suis professeur et que j'ai une déformation professionnelle. Mais si je vous dis cela, ce n'est pas seulement parce que mon métier est de parler d'histoire, et de l'histoire de la pensée en particulier. C'est parce que ma conviction, telle que j'ai été formé dans des universités qui participent de la pensée européenne, j'ai cette conviction profonde que l'Europe doit être distinguée du concept géopolitique et géoéconomique d'Occident. L'Europe a une histoire lointaine qui remonte jusqu'à ce que nous appelons l'Antiquité, qui ne saurait rester indifférente à cette antiquité méditerranéenne qui n'a pas encore disparu malgré toutes les actions de marginalisation qui lui ont été infligées, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe ne peut pas renier des racines et des références spirituelles, morales, donc humanistes, qui viennent du Proche-Orient et de la Méditerranée. Elle ne peut pas non plus renier l'effort intellectuel qui a fait que l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, a construit un outil intellectuel qui lui permet de remettre en question de son intérieur des erreurs qu'elle a pu commettre justement dans son parcours historique. Ça, c'est une donnée essentielle de l'histoire intellectuelle de l'Europe. Et personnellement, j'y crois profondément. C'est là qu'il faut essayer justement d'enraciner une action politique nouvelle qui reprendrait cette dynamique intellectuelle qui caractérise la trajectoire intellectuelle de l'Europe. Et puisque l'Europe a construit un espace juridique qui permet aux citoyens aujourd'hui de faire ce que des millions de citoyens de par le monde ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas cet espace juridique, et ça concerne en particulier le sud et l'est de la Méditerranée. Nous avons beaucoup d'acteurs historiques, une démographie dont vous connaissez la dynamique, mais malheureusement, nous n'avons pas cet espace juridique qui permettrait à une jeunesse effervescente, entreprenante, d'entrer dans une histoire de façon productive et positive, faute de posséder précisément cet espace juridique qui est disponible ici. Et c'est là aussi que s'enracine mon espoir qu'il y ait un islam européen. Parce que ce qui ne peut se faire dans la conjoncture historique actuelle au Maghreb et au Proche-Orient, mais qui se fera, j'en suis sûr, parce que je connais les virtualités historiques, les virtualités culturelles et intellectuelles qui sont encore dormantes, mais qui ne cherchent que la possibilité de se réaliser historiquement. Si, donc, nous offrons aux musulmans qui sont ici déjà en Europe la possibilité de faire la démonstration que cette reprise historique de soi et d'un soi européen, vous l'avez vu, que je n'ai pas séparé à aucun moment du soi, que moi je ne qualifie pas avec aisance d'islamique. Et ça, c'est un autre point, il faudrait une autre conférence pour expliquer ma méfiance à l'égard de ce qualificatif et de ce nom. Parce que je considère, d'après tout ce que je vous ai dit, que la question religieuse dans son entier, doit être repensée à nouveau frais. Dans l'espace européen, et bien entendu pour l'islam. L'islam ne fera pas l'économie de cette critique. Il ne fera pas l'économie de cette critique. Et c'est pour ne pas perdre du temps que j'essaye de sensibiliser les Européens pour qu'on ne perde pas plus de temps pour qu'on se mette au boulot. Je vous remercie pour votre attention.
Cher professeur, merci de nous avoir interpellés avec autant de convictions passionnées. Alors, vous avez souhaité l'intercréativité. Je crois qu'on a compris un certain nombre de messages dans cette maison, au cœur de l'Europe, finalement. Et je vais, si vous le permettez, passer la parole à la salle, puisque vous avez accepté le jeu démocratique du débat. Mes chers collègues, voilà. Attendez un micro, monsieur, s'il vous plaît, parce que la salle est grande et on vous entendra pas au fond. Excusez-moi.
Merci. J'ai écouté avec énormément d'intérêt ce que vous venez de dire et je suis d'accord avec vous à 100%. Donc je ne vais pas faire une objection, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose à ajouter. Vous avez parlé à juste titre d'une anthropologie historique, mais il y a aussi une anthropologie politique. Or, ce qui me tracasse à moi personnellement, et peut-être aussi d'autres auditeurs, c'est que je comprends fort bien l'exigence d'avoir ces colloques, cette ouverture avec cette partie des citoyens européennes qui sont des mouvances ou des cultures ou des religions islamistes. Mais ce qui me tracasse aussi, c'est que quand j'essaye d'expliquer cette nécessité, de l'autre côté, on me répond « Oui, mais qu'est-ce que nous avons à y gagner ?» Alors, ces gains, ce n'est évidemment pas en termes monétaires qu'il faut les voir, c'est qu'il n'y a aucune idée sur ce que un islam, fût-il européen, pourrait apporter de mieux comme enrichissement de notre civilisation et surtout dans notre vie politique. Parce qu'il y a quand même un fait que moi personnellement je n'ai jamais oublié, que quand il y a eu la condamnation à mort de Salman Rushdie, il y a eu partout en Europe, enfin disons dans le monde qu'on peut définir chrétien, mais ouais, je définis comme ça, une réaction. Mais vraiment, j'ai essayé de vous voir une parallèle réaction de tous ces musulmans civilisés, conscients, et pardon, je dis le mot civilisé, mais c'est mal l'alliance employé ici, des islamistes modérés et conscients des besoins de notre époque, pour condamner cette condamnation à mort. Et c'est ça que justement plusieurs fois mes contradicteurs m'opposent. Ils disent voilà, qu'est-ce que nous avons à y gagner en essayant de donner la citoyenneté à des gens qui au fond, pour finir, acceptent aisément qu'un homme puisse être condamné à mort pour avoir écrit un roman. Voilà, merci.
Oui. Alors, réponse très brève. Je vous ai dit qu'il s'agit de considérer la vision ou la notion d'un islam européen de façon dynamique, c'est-à-dire dans un devenir que les citoyens doivent construire petit à petit avec beaucoup d'efforts. Dans l'état actuel des choses, ce que vous dites est exact. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes absolument condamnés pour l'éternité à continuer de penser ainsi et d'agir ainsi. Cette attitude-là, à propos de Rushdie et d'autres affaires, est liée précisément à l'histoire récente. Récente parce que dans les années 50 et avant les années 50, il y a ce qu'on appelle l'âge libéral de la pensée arabe et de la pensée turque et iranienne. L'âge libéral, cela veut dire que les intellectuels de ces pays partageaient absolument, et il y a une abondante littérature qui en témoigne, toutes les attitudes et les postures de la raison des Lumières européenne. Ils ont écrit pour cela. Ils ont défendu cela jusqu'en 1940, début de la Deuxième Guerre mondiale, et début, juste après la Deuxième Guerre mondiale, début de l'idéologie de combat. Et l'idéologie de combat est une réponse à une histoire. C'est une réponse à une histoire. Ça n'est pas une genèse de l'intérieur. De sociétés qui avaient perdu l'initiative historique pour produire leur propre histoire. Ça aussi, c'est un fait d'histoire extrêmement important à comprendre. Les sociétés européennes ont conquis, depuis plus longtemps, la possibilité de produire leur propre histoire, et non pas de la faire produire par des interventions extérieures. Les sociétés, surtout celles qui sont autour de la Méditerranée, à cause de la proximité de l'Europe, ont perdu l'initiative de produire leur propre histoire. Et je n'ai pas suffisamment développé devant vous, mais ça, si c'était fait à l'école, je n'aurais pas eu à le faire. Voilà un exemple. Pour montrer comment, à partir du XIIIe siècle, la pensée islamique a vu son champ intellectuel se rétrécir de plus en plus. Et toute la pensée philosophique, dont j'ai dit qu'elle avait occupé une place plus qu'importante, même à l'intérieur de la théologie, va disparaître. Il va disparaître pour des raisons d'histoire et d'une histoire corrélée. Corrélée, c'est le mot important, à l'histoire de l'Europe. Et tant qu'on enseigne, on n'enseignera pas cette histoire corrélée dans l'espace méditerranéen, entre une Europe ascendante, avec ses multiples volontés hégémoniques, dans le politique, dans l'économique, dans l'institutionnel, dans l'intellectuel, dans le culturel, pour produire une situation qui est celle que nous sommes en train de vivre. On ne comprendra pas pourquoi vous n'avez pas trouvé, même en Europe, des gens pour s'avancer et dire « je refuse la condamnation de Rushdie ». Encore qu'il y en ait eu tout de même. Il y a un livre que nous avons publié en France, que beaucoup d'intellectuels ont signé, pour Rushdie. Ça s'appelle « pour Rushdie ». Ça existe, parce que nous sommes en Europe. Alors vous voyez, et vous illustrez la nécessité, encore une fois, d'éclairer les citoyens sur la genèse de la situation actuelle. Si nous en comprenons la genèse, ça veut dire que nous prendrions des mesures appropriées pour faire cesser les conséquences de cette histoire malheureuse. Et je me bats en France et ailleurs en Europe. J'ai un peu réussi en Hollande, plus qu'en France. Oui, comme ça je le dis en passant. Oui, parce que les Hollandais ont une autre approche de la question, sur divers points d'ailleurs. Et c'est intéressant de comparer les expériences européennes et les réponses européennes aux problèmes que nous posons. Je me suis battu pour essayer de créer ce que j'ai appelé, justement depuis l'affaire Rushdie, j'en avais parlé dans Le Monde, un espace d'expression scientifique de l'islam en Europe. Il n'existe pas à ce jour, mesdames et messieurs, ce que moi j'appelle un espace d'expression scientifique de la pensée islamique. On donne des lieux de culte, on donne des boucheries, comme j'ai dit, halal, on donne des coins de cimetière, très bien, hein, je n'ai rien contre, hein. Mais on ne donne pas d'espace d'expression scientifique où serait étudié de façon historique critique, par exemple, l'exégèse coranique. Nulle part elle n'est étudiée de façon critique. Or, c'est une clé. Et nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. On me refuse cette demande. Je voulais en créer un en France, sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale, pour garantir la laïcité de l'établissement. Et le contrôle absolu par le ministère de l'Éducation nationale. Rien. Pourquoi? Nous sommes en Europe. Et c'est pour répondre à ça que je voulais créer une telle institution qui devrait exister dans chaque pays européen. Et sortir du ghetto orientaliste. Vous savez comment ça fonctionne. Qui sont en dehors de l'histoire, en dehors des problèmes justement que doivent affronter les citoyens européens. Si vraiment nous avons un projet politique.
Merci. Évidemment, je suis, comme monsieur tout à l'heure, à 100% d'accord avec les thèses que le professeur Harcourt développe. Je lui poserai une question tout à l'heure. Mais je voulais répondre à monsieur le premier intervenant. C'est vrai que la difficulté du monde, c'est toujours l'information. Le hasard fait que je suis le fondateur d'un centre laïque arabo-musulman. Centre qui est né avec l'affaire Rushdie. Donc, quand on a entendu la fatwa de l'imam Khomeini, la presse belge, on était un peu plus rapide que nos amis de culture musulmane en France. On a fait très vite une lettre ouverte signée par 34 intellectuels ou comme tels qui se trouvent en Belgique, qui sont de culture et parfois de foi musulmane et qui ont dit il est inadmissible qu'un homme, quel que soit le crime de lèse-majesté pour une foi de l'autre, parce qu'il a écrit un livre, soit condamné. Ainsi, avec le temps, et tout bouge, des amis iraniens, des amis turcs nous ont rejoints, et on a dû changer le nom de notre centre pour devenir le centre des laïcs d'ascendance musulmane. Nous voulons insister sur cette spécificité de l'islam et de la laïcité. Le débat est très long, on a discuté avec nos amis juifs. La laïcité telle qu'elle est vue, et le professeur Harkoun a dit à travers ce prisme très comme un arc-en-ciel en Europe, si on tue en nous la substance identitaire de la culture musulmane, je ne me retrouve pas pleinement dans une laïcité, j'allais dire, asexuée, et ainsi de suite. On peut ouvrir le débat là-dessus. Ok, donc la réponse existe, il y a des musulmans qui ont dit non et non et mille fois non à ce genre de pratique. Monsieur le professeur Harkoun, je voudrais, ou j'espère, qu'à travers ce travail, à travers cette réflexion et à travers cette liberté de parole que vous avez, est-il possible, dans ces échanges entre la communauté européenne et le sud de la Méditerranée, d'oser, je sais que vous l'osez, mais peuvent-ils, de l'autre côté de la Méditerranée, écouter un regard aussi critique sur leur regard concernant l'Europe? Car nous ne pouvons jamais trouver une intercréativité, une interréaction, si on ne fait pas les deux, des deux côtés, notre autocritique en regardant l'autre. Le débat très long, mais vous avez compris la substance de mon intervention dans les deux cas. Merci.
Oui, oui, bah, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je suis d'accord. Il n'y a pas de débat là. Alors, on va essayer de débattre. J'espère simplement que ces idées bon, marcheront. Hein. C'est ça l'espace de la citoyenneté en devenir.
Mais chers collègues, je peux vous demander quand même d'être un peu plus bref, parce que je peux permettre.
Dans vos questions, si vous souhaitez que le professeur puisse diversifier également ses réponses en fonction, bien entendu, de vos questions.
Oui. C'est Bernard Yazinka de la DG8, Commission européenne. Monsieur le professeur, vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que pour améliorer l'image de l'islam en Europe, il faut qu'on fasse un peu plus dans le sud, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, comme en Arabie Saoudite, pour ce qui concerne la tolérance religieuse. Parce que les chrétiens en Arabie Saoudite ne peuvent pas publiquement exercer leur religion. À Rome, on a construit une grande mosquée, mais c'est interdit de construire une église catholique ou une église chrétienne en Arabie Saoudite. Et si les gens regardent la télévision et il y a des attentats aux religieux, par exemple en Algérie, n'est-ce pas, donc ça détruit l'image de tolérance de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure compréhension réciproque? Merci.
Alors, deux réponses à cela. La première, c'est que l'Union européenne, évidemment, ne doit pas attendre que l'Arabie saoudite dessine quelques mouvements dans cette direction pour se mettre au travail et accomplir sa tâche chez elle en toute souveraineté. Parce qu'elle a une histoire différente, elle a fait des parcours intellectuels et culturels qui lui permettent de faire cette tâche et de faire un saut, je le répète, historique qualitatif. Comme elle a fait un saut qualitatif au XVIIIe siècle. C'est dans sa tradition. C'est très bien. Deuxième réponse, dans ces pays-là, il y a des forces qui travaillent, dans le sens que j'indique. Ils ne croyaient pas que c'est absolument monolithique. Et là aussi, justement, l'Union européenne peut peser de tout son poids, et il est grand, en apportant des expériences telles que celle à laquelle j'appelle, qui réussiraient en Europe et diraient « voilà ce que nous avons fait ». Et ceci, je vous assure, aurait un impact bien plus important que ce que nous disons d'une façon plus ou moins polémique lorsque nous comparons les deux situations. Et puis, l'islam européen, s'il parvenait à avoir cette expression scientifique qu'il doit avoir absolument, va peser lourdement sur cet islam qui n'a pas les possibilités politiques, juridiques, culturelles, intellectuelles de franchir ce que j'appelle l'impensé et l'impensable dans la pensée islamique actuelle. Et c'est cela, une aide de l'Europe, bien comprise, et un engagement de l'Europe pour l'élargissement des valeurs démocratiques, plutôt que de faire des discours abstraits sur les droits de l'homme.
Oui, j'avais... Ouais. Je n'ai pas compris quelle est la valeur que vous attribuez au laïcisme, dans le sens que vous avez dit que la religion laïque qui est née après la Renaissance, la réforme Descartes, etc., a constitué une rupture entre les deux mondes. Et après vous avez évoqué la création d'un espace européen ou méditerranéen ouvert où les religions doivent dialoguer. Et donc ce n'est pas exactement ce laïcisme qui peut permettre ce dialogue. Je veux dire, le laïcisme est un moyen de... est quelque chose qui augmente les distances entre les deux mondes, ou c'est plutôt le seul moyen pour dialoguer, pour la tolérance, pour créer cet espace ouvert que vous avez invoqué.
Oui, alors en français, comme vous le savez, nous faisons une différence entre laïcisme et laïcité. Le laïcisme, comme on dit le scientisme, le positivisme, c'est une expression rigide dans un sens idéologique de la laïcité qui, elle, est une attitude intellectuelle ouverte devant le problème de la connaissance et devant aussi la communication des connaissances devant un public pluriel. C'est cela les deux fonctions de la laïcité. Comment connaître adéquatement et objectivement, sans tenir compte des dogmatismes, fût-ils religieux, sacrés, saints? Les droits de la connaissance l'emportent sur les définitions a priori du saint, du sacré, du religieux, etc. C'est cela l'avancée intellectuelle. Ça, c'est la laïcité. Et vous voyez comment cette notion de laïcité a une importance philosophique qui va au-delà du juridique et qui va au-delà de ce que nous nommons en anglais sécularisme. Bon, je souligne cette différence en passant. C'est très important. Et dans ce pays, la Belgique, le mot laïcité a pris justement dans l'histoire de la Belgique, dès l'indépendance de la Belgique, une importance tout à fait particulière, parce qu'elle a eu tout de suite à se définir par rapport et par opposition ou par différenciation avec le pouvoir de l'Église, qui, de son côté, a lutté contre l'État naissant pour conserver ses prérogatives. C'est pour cela que vous avez l'Université libre de Bruxelles. Voyez, c'est un enjeu important, ce sont des luttes importantes. Tandis que le laïcisme, c'est une dérive idéologique, justement anticléricale, qui s'affirme sur le plan de la lutte politique pour le pouvoir et qui perd de vue ce qui est essentiel dans la laïcité, la défense de la liberté de penser, de la liberté de s'exprimer, à condition de ne pas infliger des exposés doctrinaux à un public lorsqu'on prend la parole en public, où que ce soit. Ça, c'est une conquête. Et c'est une différenciation, vous le voyez, tout à fait essentielle. Et en France, par exemple, en ce moment, dès qu'on ouvre la bouche pour dire « essayons d'enseigner l'histoire des religions », c'est tout de suite le laïcisme qui répond. Ça n'est pas la laïcité qui répond. Et là, c'est toute l'histoire de la Troisième République française qui est en jeu, comme ici. Donc, il faut bien regarder l'histoire de ces mots. Et c'est ce que, malheureusement, les musulmans ne regardent pas assez. C'est ce que j'ai appelé l'impensé dans la pensée islamique. Et vous voyez que pour penser des valeurs aussi importantes, il faut être un historien. On ne peut rien faire sans l'histoire. Eh oui, et l'histoire occupe si peu de place dans nos enseignements. Il faut réussir en mathématiques, il faut réussir en physique, il faut réussir en informatique si vous voulez être quelqu'un dans la société. L'histoire, eh ben voilà. Et la philosophie. La philosophie en Europe, elle n'est pas enseignée partout en Europe. Les gens se moquent de la philosophie. Vous voyez, des lacunes à l'intérieur de l'Europe. Et des dérives idéologiques à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi pas? C'est des hommes comme tout le monde, hein? Des hommes et des femmes.
Rassurez-vous, professeur, il y a des historiens dans la salle,
d'ailleurs. Je l'espère.
Et d'ailleurs, certains viennent de rédiger un très très bon ouvrage sur faire l'Europe, où on parle justement de cette dimension.
Madame. À propos de la laïcité, mais vous venez pratiquement d'y répondre, je voulais insister sur le fait que si vous n'avez peut-être pas eu d'écho en France, vous pouvez essayer en Belgique, où justement l'ULB a un département d'histoire des religions qui est très suivi par les jeunes et les moins jeunes. Et l'ULB, vous savez que ça a été créé par des laïcs. Alors, je voulais donc un petit peu réhabiliter la laïcité. Alors, d'autre part, concernant l'enseignement...
Elle n'est pas attaquée.
Bon, alors je suis rassurée. Je ne sais pas si le laïcisme existe encore. Ceci dit, concernant l'enseignement de l'histoire, nous n'avons pas encore trouvé, je crois, de façon d'enseigner l'histoire européenne. Il y a eu des projets au niveau des écoles européennes et des écoles nationales. Je crois qu'il y a un ou deux ouvrages qui sont sortis, mais nous n'avons pas encore trouvé la solution. Alors peut-être qu'effectivement, la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a été peut-être un peu trop franco-centriste et que ce n'est pas le cas en Belgique. Alors peut-être que là, vous pourrez vous faire entendre plus facilement. Alors, j'ai quand même une question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de politique du religieux en Europe, mais ce n'est pas possible puisque le religieux, justement, dans la laïcité, c'est la séparation de la vie privée et de la vie publique. C'est une affaire privée, donc il ne peut pas y avoir de politique du religieux. Et finalement, j'ai une question. Vous aviez écrit il y a quelques années à propos de l'affaire Rushdie lors de votre interview dans Le Monde que les droits de l'homme étaient une affaire, enfin une notion occidentale. Pouvez-vous préciser votre pensée? Merci.
Bien. D'abord, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le titre que Le Monde a donné à mon interview. Ça, c'est un truc de journaliste. Évidemment, c'est moi qui l'ai sur le dos. Car moi, j'ai dit que, pour expliquer justement ce que monsieur a dit tout à l'heure, je voulais expliquer que dans la psychologie du croyant, qu'il soit d'ailleurs juif, chrétien ou musulman, il y a la notion de droit de Dieu qui conditionne l'exercice des droits de l'homme. C'est ainsi que les théologies ont pensé le droit pendant des siècles. Et dans la sensibilité du croyant musulman d'aujourd'hui, quand il n'a pas connu le travail de la philosophie, justement, que nous avons connu en Europe, il continue obscurément de penser à l'intérieur des droits de Dieu et non pas à l'intérieur des droits de l'homme. C'est ça la différence que je voulais expliquer toujours en historien, pas en quelqu'un qui prend position en disant les droits de Dieu, par exemple, sont supérieurs aux droits de l'homme à l'occidental. Ça, c'est stupide. Mais c'est ce qu'on m'a collé sur le dos. Vous voyez comment ça fonctionne? Eh oui. Bien, alors, vous avez dit quelque chose sur la laïcité, que j'ai oublié le... Je voulais vous répondre à ça. J'ai oublié ce que vous avez dit. Ah oui, sur la séparation. la séparation de l'Église et de l'État, et que ça relève du privé, donc on n'a pas à avoir de politique. Vous voyez, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Madame. J'ai dit que les croyances relèvent de la conscience privée, mais que le religieux, que j'appelle au singulier, pour désigner un phénomène universel, qui est une manifestation de la réalité humaine à travers l'histoire, ce religieux-là doit être objet d'étude. Et on doit en débattre dans nos universités, dans nos lieux de recherche, pour que nous fabriquions une explication du fait religieux qui puisse devenir la culture de tout le monde. Et qui doit donc circuler dans l'espace public. Voilà une conception de la laïcité qui a prédominé, aussi bien ici chez quelques-uns, pas chez tous, qu'en France, qui consiste à comprendre la laïcité comme une privatisation totale de tout ce qui relève du religieux, y compris la dimension historique, culturelle, psychologique, linguistique, anthropologique, etc., et même psychanalytique. Tout cela, c'est de la science, c'est de la connaissance. C'est notre espace d'étude et de compréhension et d'intelligibilité de la production du sens dans les sociétés. Dans les sociétés, c'est-à-dire dans l'espace public. Et voilà un point crucial, et je suis content, madame, que vous l'ayez formulé comme cela. Parce que ça nous permet de voir comment nous avons assimilé une conception de la laïcité avec un défaut d'analyse. Je m'excuse, je ne parle pas pour vous, je parle en général. Il y a un défaut d'analyse, à la fois philosophique, historique, de la laïcité. Et quand on a un défaut d'analyse comme ça, eh bien, ça produit des conséquences. Et ces conséquences sont graves. Car le discours islamique contemporain qui circule dans l'espace public, justement, il doit faire l'objet de notre examen avec tous les outils des sciences de l'homme et de la société. Sans quoi, la violence va continuer toute seule.
Si vous permettez, ça sera la dernière question, cher collègue.
Alors, je suis désolé, monsieur Germain, ce sera un peu plus qu'une question, je vais faire également une petite intervention. Non, je voudrais changer un peu la perspective et en fait continuer dans le sens que vous venez de commencer, monsieur Harkoun. Je dois dire qu'au moment où j'ai découvert votre œuvre, il y a quelques années, j'ai été frappé de voir qu'en parallèle, des philosophes européens, des penseurs, s'interroger sur la question du sens en Europe et dans le monde chrétien. Il y a récemment un livre qui est paru, qui vaut ce qu'il vaut d'un point de vue philosophique, d'un philosophe français qui s'appelle Luc Ferry, qui a un titre aussi frappant que « L'homme, Dieu ou le sens de la vie », où Luc Ferry défend l'hypothèse que depuis Nietzsche, toute la philosophie européenne a été déconstructive, c'est-à-dire qu'elle a montré le monde tel qu'il est, au lieu de le montrer tel qu'il devrait être. Et donc, il pense qu'il est grand temps, urgent, pour la philosophie de se réapproprier la question du sens. Et donc, à ce titre, je voudrais, moi, dire que je pense que l'œuvre de M. Harkoun va au-delà de la critique de la raison islamique et qu'elle donne des armes pour reconquérir le sens en Europe, dans le monde chrétien. La question du sens, pardon, oui. Excusez-moi. Voilà. Et je voudrais à partir de là enchaîner sur une question. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de théologiens, même chrétiens, qui entament également une critique donc scientifique de la raison chrétienne ou du christianisme. Et forcément, cela rencontre une opposition très forte de la part de l'Église. Le pape y répond avec une grande virulence parce qu'il sent bien que si on passe d'une philosophie de la vérité révélée à quelque chose où l'homme redeviendrait le centre par l'intermédiaire de la raison, où il devrait se réapproprier par la raison la religion, alors c'est toute l'Église qui risque d'être mise en cause. Alors, comment est-ce que vous voyez ce qui peut rester de la religion et des institutions religieuses après une critique de la pensée religieuse moderne telle que vous la concevez.
Non, je vais simplement dire que voilà une question qui doit être ouverte et discutée sérieusement. Et vous pouvez organiser, je pense, des conférences ici. Mais oui, ça fait partie de la construction politique de l'Europe.